Aristote, de la génération et de la corruption, chapitre 9. Paragraphe 1. Quant à nous, remontant au principe que nous avons si souvent énoncé, reprenons l'explication de la manière dont la production, l'action et la souffrance ont lieu dans les choses. Si, en effet, une chose a telle propriété, tantôt en simple puissance, tantôt en réalité, en entelechie, et si naturellement elle peut souffrir dans telle de ses parties, et ne pas souffrir dans telle autre, mais que, pour sa totalité, elle souffre dans la proportion même où elle a cette propriété, il est clair qu'elle souffrira plus ou moins, selon que cette propriété sera plus ou moins forte en elle. C'est en ce sens, surtout, qu'on pourrait plus aisément admettre l'existence des pores. Il serait ainsi dans les corps, comme dans les métaux, s'étendent quelquefois des veines continues de la matière susceptible d'une certaine affection. Paragraphe 2. Ainsi, tant que la chose est homogène et qu'elle est une, elle est impassible. Il en est encore de même quand les choses ne se touchent pas entre elles ou n'en touchent pas d'autres qui peuvent, par leur nature, agir ou souffrir. Je veux dire, par exemple, que non seulement le feu échauffe au contact, mais qu'il échauffe aussi à distance. Car le feu échauffe l'air, et l'air échauffe le corps, parce que l'air peut, par sa nature, à la fois agir et souffrir. Paragraphe 3. Mais quand on dit qu'une chose peut souffrir dans une de ses parties, et peut ne pas souffrir dans une autre, on doit expliquer ce qu'on entend par là, après la définition donnée dans le principe. Si, en effet, la grandeur n'est pas absolument divisible en tous sens, mais qu'il y ait quelque chose, corps ou surface, qui soit indivisible en elle. Il s'ensuivrait qu'il n'y a plus de grandeur qui puisse être totalement passive. Mais il n'y aurait plus rien non plus qui pût être continu. Or, si c'est là une erreur, et que tout corps soit toujours divisible, il n'importe plus que le corps soit divisé réellement, et comme tel, susceptible de contact, ou qu'il soit simplement divisible. Car du moment qu'il peut être divisé au point de contact, ainsi qu'on le prétend, il peut être regardé comme divisé, même avant de l'être. Et il sera divisible, puisque rien de ce qui est impossible ne se produit jamais. Paragraphe 4. Ce qui rend tout à fait absurde de soutenir que l'action et la passion ont lieu de cette manière, par la scission des corps, c'est que cette théorie supprime et détruit l'altération. Ainsi, nous voyons qu'un même corps, sans cesser d'être continu, est tantôt liquide, tantôt coagulé, sans qu'il souffre cette modification ni par la division de ses parties, ni par leur combinaison, ni par leur déplacement, ni par leur contact, comme le prétend Démocrite. Car le corps n'a eu ni à changer de position, ni à changer de place, ni à changer de nature pour devenir coagulé de liquide qu'il était. On ne voit pas non plus que les choses durcies et coagulées soient actuellement indivisibles dans leur masse. Mais le corps tout entier est également liquide et parfois il devient tout entier dur et se coagule. Paragraphe 5. Enfin, dans ce système, il ne saurait plus y avoir ni accroissement des choses, ni dépérissement. Car aucun corps n'aura pu devenir plus grand s'il n'y a qu'une simple addition, et s'il ne change pas tout entier lui-même par suite du mélange d'une chose étrangère ou par suite de quelque changement qui se passe en lui. Paragraphe 6. Nous nous bornerons à ce que nous venons de dire en ce qui concerne la production des choses, leur action, leur génération et leur modification réciproque. Ceci suffit également pour comprendre dans quel sens ces phénomènes sont possibles et comment ils ne le sont pas, d'après les explications qui en ont été quelquefois données.